France Info.
Des remontées de sable transportées dans l'atmosphère qui survolent une bonne partie du territoire d'ailleurs. Côté température, pas de changement, c'est toujours très doux cet après-midi.
La marchande de sable, Christine Peña, merci d'écouter France Info. Il est 5h. Des véhicules blindés français pour le Liban. Emmanuel Macron promet une aide militaire et humanitaire face à l'exode de dizaines de milliers de Libanais fuyant les frappes israéliennes sur le Hezbollah dans le sud du pays. Au 7e jour de cette guerre des Américains et des Israéliens contre l'Iran, des tirs de drones et de missiles ont à nouveau visé Tel Aviv. Les Israéliens annoncent qu'ils passent à une deuxième phase de leur offensive. Également dans l'actualité, la reprise des cours au collège de La Rochelle où un élève a été poignardé par un autre collégien. La victime est hors de danger. France Info était sur place hier avec une rentrée dans un contexte évidemment très pesant. Et le football, on connaît l'affiche des demi-finales de la Coupe de France. Lens-Toulouse et Strasbourg-Nice. Lens s'est qualifié au tir au but hier soir en éliminant les Lyonnais. Alors que des dizaines de milliers de personnes ont pris le chemin de l'exode dans le sud du Liban pour fuir les frappes israéliennes, Emmanuel Macron répond à un appel de son homologue libanais Joseph Aoun, appel à l'aide humanitaire et au-delà, le président français veut établir un plan pour la fin des opérations militaires du Hezbollah d'un côté, d'Israël de l'autre. Audrey Tison.
La France va renforcer sa coopération avec l'armée libanaise avec des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique, annonce Emmanuel Macron. Il rappelle que des soldats français sont déjà dans le pays dans le cadre des Nations Unies. Paris envoie aussi une aide humanitaire à destination des civils qui fuient le sud du Liban. Plusieurs tonnes de médicaments ainsi que des solutions d'abri sont en cours d'acheminement. Mais c'est bien la fin de la guerre que vise Emmanuel Macron. Il souhaite établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires. Il demande une nouvelle fois au Hezbollah de cesser les tirs vers Israël et il enjoint Israël à renoncer à toute intervention sur le territoire libanais. De leur côté, les autorités libanaises s'engagent à prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah, assure Emmanuel Macron. Il veut tout faire pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre.
Audrey Tison du service politique de France Info. Un avion d'Air France à destination de Dubaï pour rapatrier des Français bloqués par la guerre a été contraint de faire demi-tour au-dessus de l'Égypte à cause d'une alerte aux missiles. Coup dur pour les Français qui étaient déjà à l'aéroport à Dubaï et qui restent bloqués. On va entendre dans une dizaine de minutes à 6h10 le témoignage d'une de ces Françaises qui était à l'aéroport avec ses enfants. La guerre au Moyen-Orient entre aujourd'hui dans son 7e jour. Israël annonce une nouvelle phase dans son offensive contre l'Iran en affirmant avoir désormais établi sa supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques iraniens. Et ce matin, le Hezbollah libanais vient de revendiquer de nouveaux tirs de roquettes et d'artillerie vers Israël. À Tel Aviv, des séries d'explosions ont été entendues hier soir. Les frappes, par ailleurs, continuaient encore hier sur l'Iran et sur Téhéran avec un bilan, selon des chiffres officiels, impossible à vérifier, de 1230 morts dans les frappes américaines et israéliennes depuis samedi dernier. Déflagration également entendue hier au Qatar et à Bahreïn, sans faire de mort selon les autorités. France Info, il est 5h03. Un vol Dubaï-Le Caire dans ce contexte pour plus de 200 000 euros. C'est ce que proposent des compagnies pour réserver un jet privé de 8 places. Et c'est plus du double du prix d'avant la guerre. Des prix qui ont bondi avec l'annulation des vols commerciaux. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises n'hésitent plus à proposer leurs services à des vacanciers désespérément bloqués. Thomas Vinclair.
Rentrer à Paris, trouver un billet de sortie. Giuseppe Cutraro alias Pepe en rêve. Pourtant, ce célèbre pizzaiolo a déjà reçu une offre.
Ils m'ont proposé un vol privé à 30 000 euros la siège.
Soit 120 000 euros, un Dubaï Le Caire pour lui, sa femme et ses deux enfants.
Il a essayé de m'arnaquer. Personne pour accepter ça, personne pour payer ça. C'est n'importe quoi.
Pourtant, il n'y a pas d'arnaque, car face à la guerre, les compagnies de jets privés ont vu leurs coûts s'envoler.
Premier truc qu'on se dit, c'est qu'ils abusent.
Hugo Gaden est un intermédiaire entre ces entreprises et les clients. Alors si les prix ont bien triplé, il l'assure, personne ne profite de la guerre.
C'est pas trois fois plus dans les poches de l'opérateur, loin de là. Déjà, on va payer le retour à vide de l'avion jusqu'à Dubaï pour aller chercher les gens. Donc forcément, le prix va être déjà doublé. Et on peut monter, selon le type d'appareil, jusqu'à 50 000 euros de frais d'assurance en plus par vol.
À cela, il faut rajouter une offre faible avec seulement une petite trentaine de jets encore disponibles alors que la demande explose.
Toutes les minutes, il y a 2-3 demandes pour des départs urgents, en fait. Dans la zone, on doit être autour de x50 la demande par rapport à d'habitude.
Hugo Gaden qui met en garde aussi sur l'explosion du marché noir dans le secteur des jets privés avec des compagnies un peu moins chères mais qui opèrent parfois sans autorisation, licence ou assurance.
Thomas Vinclair, les suites de la guerre contre l'Iran et toutes ses conséquences, on y revient largement après le journal dans 5 minutes à 6h10. Il est 5h05 et donc ce ne sera pas à 6h10, c'est à 5h10. 5h05 tout de suite, on va à La Rochelle, le collégien de 13 ans poignardé par un autre élève au collège Bourgard a été opéré avec succès hier. Ses jours ne sont ce matin plus en danger. Quant à l'agresseur du même âge, sa garde à vue a été prolongée. Selon le procureur de la République, l'adolescent affirme avoir agi par vengeance contre la victime qu'il n'appréciait pas depuis plusieurs années. Au lendemain de cette agression au couteau, le rectorat avait mis en place un dispositif d'accueil des élèves et du personnel enseignant. Beaucoup de policiers étaient là aussi pour mener une fouille généralisée des sacs des ados avant de rentrer en cours. Sur place, pour France Info, Éric Le Bihan.
Les filles sont séparées des garçons pour permettre une fouille généralisée des sacs dans une ambiance pesante. Des parents d'élèves sont encore chamboulés.
Non, j'ai pas envie de parler, je connais les boutiques.
Des parents qui, autant que faire se peut, ont écouté et rassuré leurs enfants, encore traumatisés par l'agression.
Moi, j'étais pas bien après cet événement. Je peux pas rester seule parce que j'ai forcément la crainte. J'ai échangé avec ma mère, qui m'a dit qu'on était en sécurité, mais qu'on craignait toujours des choses.
Après, les parents, ils nous ont dit que ça arrivait un peu partout aussi.
Oui, parce que je pense qu'il y a des élèves, ils ont vraiment paniqué, ils ont vu des choses aussi horribles et tout.
Au volant de sa voiture, Anthony consent à baisser sa vitre. Il vient de déposer son fils.
Oui, il faut en parler. Je pense qu'il faut crever un peu l'abcès parce qu'il y a eu pas mal d'échos sur ce qui s'est passé, etc. C'était un peu compliqué. Le rassurer sur le fait que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, que ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et surtout de parler s'il y a des problèmes, peu importe qui l'entend ou le concernant directement.
Debout près de sa voiture, Cindy regarde sa fille se diriger vers le collège.
Très très important d'en parler, de désamorcer, qu'elle se vit. De ce qu'elle a sur le cœur, etc. C'est très très important.
En tant que parent, vous avez vécu ça comment, à distance?
J'étais très choquée. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai très mal dormi. C'est très inquiétant, moi, je trouve. On confie nos enfants qui sont en sécurité, et puis finalement, on se rend compte que pas tellement, en fait.
Éric Le Bihan d'ici La Rochelle pour France Info. La grande collecte annuelle des Restos du Cœur est lancée aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche, notamment dans les supermarchés. Pour l'association caritative, les dons en nature représentent plus de la moitié des produits distribués aux personnes accueillies dans ces centres. Exemple pour France Info, à l'antenne des Restos du Cœur d'Étouvie, près d'Amiens, sa co-responsable Denise Thébault voit bien que de nouveaux profils de bénéficiaires sont apparus dernièrement.
C'est qu'actuellement, nous avons beaucoup de retraités. Ça me fait forcément mal au cœur parce que ce sont des personnes qui se retrouvent pratiquement démunies parfois et des étudiants. Ça, c'est tout nouveau. On connaît leurs besoins. Nous, assez plus jeunes, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de revenus et que tout est cher actuellement. Et surtout, ce qui est paradoxal, c'est les propriétaires de petites maisons qui ne payent pas de loyer, certes, mais qui ont plein d'à côté à payer. Ça, c'est vraiment tout nouveau. Les gens qui n'arrivent pas à boucler leur mois.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là ?
Ils pleurent la première fois qu'ils rentrent. Et après, ils sourient. Ils viennent nous voir parce que là, ils n'en peuvent plus. Ils sont grévés d'impôts, de dettes. Alimentaires, ils n'arrivent pas à boucler leur mois. Donc, le 10 du mois, on n'a plus rien à manger. Ça, c'est un discours qu'on entend sans arrêt.
L'une des responsables des Restos du Cœur dans la région d'Amiens, la grande collecte, c'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Le football, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Lens Toulouse et Strasbourg Nice, ce sera le 22 avril. Hier, Lens s'est qualifié au tir au but face à Lyon. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Cette saison, Lens peut encore avoir des grandes ambitions à la fois en championnat et dans cette Coupe de France que le club n'a jamais gagnée. Soirée de football vécue à Lens pour France Info par Jean-Pierre Blimaud.
Pierre Sage, l'ancien entraîneur de Lyon et désormais celui de Lens, a vécu une fin de match bien difficile.
J'ai trouvé ça interminable.
Car celui qui a éliminé son club de cœur a bien cru que ce quart de finale allait échapper aux Lensois. Mais la séance des tirs au but a été particulièrement bien gérée, 5-5 pour les partenaires de Mamadou Sangaré.
Toute la semaine, on a travaillé les séances des tirs au but, ça nous a un peu aidé aussi.
Et voilà Lens, deuxième de Ligue 1, en lice pour la Ligue des Champions et peut-être pour le titre. Embarqué aussi dans le dernier carré pour la Coupe de France, qui devient un objectif assumé, confie Mathieu Hudol.
C'était déjà un objectif dès notre premier tour. Là, forcément, on est à une victoire d'aller en finale et à deux de soulever cette Coupe. Donc ça se précise de plus en plus. On est content de recevoir sur le prochain tour.
Car ce sera en effet une demi-finale à domicile qui se profile fin avril pour les joueurs de Pierre Sage.
On va avoir une demi-finale chez nous contre Toulouse. Ça va être un match très intéressant, sachant qu'on les joue le week-end d'avant en championnat. Et je souhaite à Lyon de gagner la Coupe d'Europe.
La Coupe de France dans le viseur, Pierre Sage n'oublie pas que son ancienne équipe s'apprête à disputer les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il la retrouvera d'ailleurs à Lyon lors de la dernière journée de championnat, dans ce qui pourrait être un match décisif pour le podium.
Jean-Pierre Blimaud à Lens pour France Info. Et c'est le jour J pour les Jeux Paralympiques d'hiver de Milan-Cortina avec la cérémonie d'ouverture ce soir à 20h dans les arènes antiques de Vérone. À 5h10, un nouveau coup d'œil à la météo de ce vendredi avec Christine Peña. Christine, les nuages de plus en plus nombreux.
Oui, c'est pas terrible hein, aujourd'hui. Pas terrible. Le mauvais temps remonte d'Espagne en fait. Et c'est pour ça qu'on a des pluies d'ailleurs très importantes sur les régions proches de l'Espagne, les Pyrénées-Orientales et puis jusqu'à l'ouest de l'Hérault, c'est là où les cumuls seront les plus importants. Sur la façade ouest, très nuageux avec quelques pluies mais passagères. Et plus on va vers le nord-est, notamment vers la Lorraine, l'Alsace, et plus le soleil est présent. On a toujours cette grande douceur d'ailleurs cet après-midi. Entre 15 et 20 degrés, nous annonce Météo France.
Et Christine Peña.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
Il est 5h11, un avion d'Air France parti pour Dubaï pour rapatrier des Français a été obligé de faire demi-tour à cause d'une alerte aux missiles. Coup dur évidemment pour les Français qui attendent ce rapatriement. Témoignage dans un instant à Dubaï avec l'une de ces Françaises.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Un vol Air France a donc dû faire demi-tour hier soir alors qu'il était dans une zone où étaient tirés des missiles. L'avion était vide, il était parti dans la soirée de Paris-Charles de Gaulle et devait atterrir à Dubaï. Il a fait demi-tour alors qu'il se trouvait au-dessus de l'Égypte. Il devait rapatrier des personnes identifiées par la France comme étant vulnérables, c'est-à-dire des malades, des personnes fragiles ou des enfants. C'est le cas pour Claudia, une maman en vacances à Dubaï avec ses deux enfants de 7 et 13 ans bloqués sur place. Elle était à l'aéroport quand elle a appris que l'avion n'arriverait pas.
C'est l'ambassade qui m'a contactée pour faire partie des personnes qui étaient rapatriées ce soir avec mes enfants. On nous a demandé de nous rendre à un aéroport précis à 20h et le vol devait partir à minuit pour arriver en France à 7h55. Avant, on a reçu des alertes sur la route et quand on était à l'aéroport, on a reçu des alertes sur nos téléphones. En fait, ça a été annoncé par des personnes de l'ambassade qui avaient des gilets écrits « Ambassade de France ». Moi, je me suis effondrée. Jusqu'à maintenant, je tiens puisque j'ai des enfants. Mais à ce moment-là, je me suis effondrée, oui, parce qu'on voyait déjà le bout. On avait annoncé à nos familles qu'on était de retour. Et finalement, non. Et finalement, tout recommence parce qu'on reçoit des alertes sur les téléphones, on entend des détonations.
Et qu'est-ce que vous leur dites, justement, à vos enfants ?
Je leur dis la vérité, avec des mots pour enfants. Mais je leur dis la vérité, puisque de toute façon, ils entendent ce qui se passe autour. Donc, je leur ai annoncé que pour notre sécurité, on ne pouvait pas partir ce soir, que c'était plus prudent de rester. C'est compliqué, je pense, pour tous les parents de devoir... expliquer ça aux enfants, de les rassurer tous les soirs, tous les jours, voilà, de garder un certain cap.
Et justement, votre quotidien, surtout vos nuits dans cet hôtel, à quoi ressemble-t-elle ?
C'est angoissant, c'est surtout les nuits qui sont angoissantes. On a vécu des nuits avec des alarmes à minuit, une à 3h30. Je pense que la plupart, en tout cas moi je fais partie des... ceux qui manquent de sommeil, qui dorment très mal et... je pense qu'on aura tous un peu quelques séquelles. Hier, c'était plutôt des avions qui passaient, enfin des avions militaires. Hein. Avant-hier, c'était une nuit calme. Et la nuit d'avant, c'était la nuit où on a été réveillé à 3h30 avec les alertes. Et dans l'hôtel où j'étais à Abu Dhabi, nos correspondants donc m'ont demandé de nous éloigner des fenêtres. Enfin, c'est les consignes, hein. Tout le monde reçoit les mêmes consignes. Et il m'avait dit donc, de nous mettre à l'abri avec les enfants dans la salle de bain. Donc j'ai fait un lit dans la baignoire, un autre par terre.
Là, vous avez passé 4 nuits dans la salle de bain, dans la baignoire et par terre, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. C'est pour ça que je pense que là, en France, le relâchement va être quelque chose. En tout cas, il me faudra quelques minutes pour pleurer et passer à autre chose. Voilà.
Et là, pour l'instant, quelle visibilité vous avez pour les jours à venir? L'ambassade vous en a donné plus ou pas du tout?
Non, l'ambassade nous a envoyé un petit WhatsApp juste pour nous informer qu'elle reviendrait vers nous dans les prochains jours.
Le témoignage de cette Française bloquée à Dubaï, elle répondait pour France Info à Yvan Planteil. Il est 5h15, alors que des dizaines de milliers de personnes fuient le sud du Liban. Emmanuel Macron veut un plan pour la fin des opérations militaires dans le pays. Il s'en est entretenu avec son homologue libanais hier pour lui réaffirmer le soutien de Paris et promettre une aide à la fois humanitaire et militaire. Catherine Vautrin, la ministre des Armées.
Le président de la République s'est entretenu avec les plus hautes autorités libanaises, le président Aoun, le premier ministre, et l'engagement de la France, c'est que tout doit être fait, évidemment, pour que ce pays, qui est un pays ami de la France, ne soit pas entraîné dans la guerre. D'abord, le Hezbollah doit cesser ses tirs vers Israël, parce que le fait générateur, c'est quand même celui-là. Le deuxième élément, c'est qu'Israël renonce à toute intervention terrestre d'envergure sur le territoire. À partir de là, il est important que le Liban s'engage également pour prendre le contrôle des positions qui sont les positions tenues par le Hezbollah. Pour cela, la France est aux côtés, bien sûr, des FAL, des forces armées libanaises avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact, pour lesquels nous avons adressé du matériel, je pense par exemple à des véhicules blindés, des éléments de formation, et vous faisiez allusion aux soldats français. Il y a 700 soldats français sur place au titre de la FINUL. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'envoi de troupes. En revanche, vous l'avez entendu, le président de la République a appelé à une aide humanitaire parce que nous avons tous ces habitants du sud Liban qui ce soir sont sur les routes et fuient, qui ont besoin de cette aide humanitaire et la France va le faire.
La ministre des Armées, Catherine Vautrin, invitée hier soir du 20h de France 2. La panique s'est donc emparée de Beyrouth hier. C'était après un appel inédit d'Israël à évacuer le sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah, allié de Téhéran. Le ministère de la Santé du Liban annonce que depuis le début de l'offensive israélienne lundi, au moins 123 personnes ont été tuées, près de 700 autres blessées. Une situation humanitaire de plus en plus alarmante. L'état des lieux dressé sur France Info par Jean-François Corti, président de Médecins du Monde.
On est au bord d'une crise humanitaire d'ampleur. Je pense qu'il faut le dire, on sait qu'il y a déjà depuis 3 jours près de 85 000 déplacés qui sont arrivés du sud du Liban, qui pour la plupart n'ont rien, vivent dans leur voiture ou comme ils peuvent. Les autorités ont mis en place des dispositifs d'hébergement environ 350, mais on sait qu'ils sont saturés. Et puis, avec cette perspective de bombardement du sud de Beyrouth, on parle d'au moins 400 000 personnes qui devraient se déplacer. Encore une fois, dans un pays où il manque de tout, où il y a un quart de la population qui est réfugiée, c'est une situation qui est cataclysmique. Je pense que pour les humanitaires et pour les civils libanais, ça va être très compliqué si les Israéliens font ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire. Et je rappelle que les bombardements ont eu lieu aussi sur Baalbek, dans la vallée de la Beka, bien sûr dans le sud. Il va y avoir des taux de mortalité qui vont exploser. Oui, nous sommes particulièrement inquiets. Aujourd'hui, les Médecins du Monde, entre autres, nous avons mis en place un dispositif d'urgence adapté sur la base des opérations que nous avons menées à 18 mois, c'est-à-dire soutenir les autorités libanaises, le ministère de la Santé, préparer des interventions mobiles dans ces centres d'hébergement où il va y avoir de nombreuses personnes qui vont être démunies. Et puis, c'est aussi essayer de maintenir une continuité des soins pour les déplacer dans un pays où le système de santé est à un haut niveau d'opérationnalité en général. Mais la perspective de raser le sud de Beyrouth, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Les Israéliens ont toujours fait ce qu'ils annonçaient en matière d'opérations militaires. Ouais. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. C'est pour ça que je parle de crise humanitaire potentiellement majeure, parce qu'aujourd'hui, les besoins sont déjà énormes. Le pays n'a pas la capacité de réponse à des déplacés qui vont arriver en masse.
et une aide humanitaire qui va devoir se développer dans un contexte d'insécurité majeure. Ouais. Je pense que le cessez-le-feu s'impose si l'on veut éviter le bain de sang.
Le cessez-le-feu, en tout cas l'arrêt des combats, c'est ce que poursuit Emmanuel Macron. Il annonce l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les réfugiés fuyant le sud du Liban. Il parle de plusieurs tonnes de médicaments qui sont en cours d'acheminement ainsi que des solutions d'abri et d'aide. Les autorités libanaises, elles parlent de 83 000 déplacés. C'est suffisant ce qu'annonce le président ?
C'est 80 000 déplacés aujourd'hui depuis trois jours, mais avec les annonces de la destruction potentielle du sud Beyrouth, vous pouvez rajouter 300 à 400 000 personnes. Donc l'aide va être nécessaire, massive. Je pense qu'on peut se réjouir que la France annonce l'envoi de matériel humanitaire, justement pour répondre aux besoins d'abri et d'hébergement tels que je vous l'évoquais tout à l'heure, et aussi d'un besoin de médicaments dans un contexte où les pénuries sont déjà préexistantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale, dont la France, ne doit pas simplement s'arrêter à de l'aide humanitaire, même si c'est une exigence vitale. Il faut qu'il y ait une pression politique majeure pour arrêter cette dynamique mortifère. Aujourd'hui, les civils dans la région, que ce soit en Palestine ou au Liban, en Syrie, au Yémen, en fait, la région est à feu, vous le savez, y compris en Iran, et aussi les civils israéliens qui sont en difficulté. Il faut stopper cette mécanique. L'aide humanitaire, c'est un palliatif. Ça ne pourra pas répondre au drame en cours. Donc, pour répondre à votre question, très bien si la France envoie de l'aide, tant mieux si elle peut aider les acteurs humanitaires dans le fait d'avoir des stocks pour répondre aux besoins, mais ça ne sera pas suffisant compte tenu de la densité de population dans la région, vu la tension, vu la nature des enjeux politico-militaires aujourd'hui.
Le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, il répondait sur France Info à Marc Potvin.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h21, c'est avec Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
Le premier titre de ce vendredi, les gardiens de la révolution iranienne annoncent de nouveaux tirs de missiles en direction de Tel Aviv.
Et en face, Israël affirme viser l'infrastructure du régime iranien à Téhéran. Israël qui bombarde massivement également la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban après avoir appelé à évacuer de larges zones, jetant des centaines de milliers de personnes sur les routes. Tandis que depuis la France et Emmanuel Macron tente de se poser en médiateur pour, dit-il, empêcher le pays d'être à nouveau entraîné dans la guerre. Le dernier bilan des autorités libanaises fait état de 123 personnes tuées par des frappes israéliennes au Liban. Une soixantaine de professeurs de droit et de juristes saisissent le Conseil d'État à propos de CNews et Europe 1, sur lesquels ils dénoncent une absence de pluralisme avec une ligne éditoriale favorable à l'extrême droite. Les signataires mettent en cause l'inaction de l'ARCOM, estimant que l'autorité de régulation des médias ne remplit pas pleinement sa mission de contrôle à l'égard des deux antennes, propriété du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Le RC Lens file en quart de finale de la Coupe de France après un match à rebondissement. Les Lensois ont finalement éliminé Lyon au tir au but. Ils ont été rattrapés par les Lyonnais après avoir mené 2-0 à la pause. Lens qui affrontera donc Toulouse en demi-finale et l'autre demi ce sera Strasbourg-Nice.
France Info.
C'est aujourd'hui le coup d'envoi des Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina avec la cérémonie d'ouverture ce soir. Dans toute l'histoire de ces Jeux, la Belgique, qui n'est pas franchement réputée pour ses montagnes, n'a encore décroché que deux médailles. Une chez les messieurs en 1994, l'autre chez les dames en 2018 avec Eleonore Sana, skieuse malvoyante, et sa sœur Chloé qui lui servait de guide. C'est cette histoire assez extraordinaire que raconte aujourd'hui une bande dessinée. Ça s'appelle Sœurs de glisse et les championnes y ont activement participé. Augustin arrivé.
Mars 2018 en Corée du Sud, Chloé Sana s'élance la première.
On n'imagine pas que le guide est aussi un athlète, sauf qu'évidemment il a plus de facilité.
Immédiatement suivi de sa sœur malvoyante, Eleonore.
On ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe en fait.
Sana, it's 131-60.
Donc on arrive en bas de la piste avec ma sœur. Et elle me dit, Elé, on est troisième, mais à ce moment-là, il ne faut pas encore trop y croire parce qu'il faut attendre que tout le monde soit arrivé pour seulement dire on a fait un podium. Et là, il y avait vraiment des centaines de personnes qui étaient venues et nous féliciter. Donc c'était vraiment incroyable.
Les sœurs Sana viennent de décrocher le bronze paralympique. L'album raconte le parcours pour en arriver là. Éléonore, qui n'a pas grandi totalement aveugle, est une combattante élevée comme telle par ses parents.
Mon papa avait décidé que si les frères et sœurs ils allaient à l'école à vélo, ben, il n'y avait pas de raison. Moi, j'irais à l'école à vélo aussi. Bon, ils me suivaient à vélo, on est d'accord, je ne partais pas toute seule. Mais on allait adapter les choses pour faire en sorte que ben, il n'y ait pas de différence avec les autres. Donc oui, je suis hyper reconnaissante de la façon dont mes parents m'ont éduquée, ça c'est clair.
Elle brille en gymnastique à l'école. La Ligue Handisport lui propose alors de démarrer le ski alpin.
Quand on faisait du ski, on était absente de l'école parce qu'à ce moment-là, on était à l'école. 120 jours par an. Je pense que j'avais plus de 15 heures de sport par semaine. Tout ce qu'on voit, c'est de la médaille, mais il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas forcément tous les jours facile non plus.
Sa sœur ne faisait pas de sport auparavant. Elles avaient d'ailleurs peu de points communs. Chloé, qui voit quand même des différences entre la BD et la réalité.
Ah oui, quand même. Je crois que je suis pas une aussi grosse râleuse. Quand je lis la BD, je me dis, c'est pas possible, c'est pas, je râle pas comme ça, moi.
C'est le ski qui les rapprochera. Elle devient les yeux de sa cadette sur la piste. Elle espère aujourd'hui que ce récit dessiné servira d'exemple.
Tout ce qu'elle a mis en place pour y arriver, l'acceptation du handicap, on n'entend pas souvent parler des Jeux paralympiques, des différents handicaps. Et donc, si ça peut permettre à certains de se lancer dans des projets, avec grand plaisir.
Le livre est signé Gwenola Morizur et Agnese Innocente. C'est à lire dès l'enfance pour l'inspiration, mais les jeunes parents y trouveront sans doute aussi des enseignements utiles.
Augustin arrivé, ça s'appelle Sœur de Glisse, édité chez Jungle. Il est 5h25, le monde d'Elodie. Elodie Suigo est son invitée.
Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour à tous et à tous.
Ne me quitte pas, oh ma belle jeunesse. Ne me largue pas dans mes souvenirs.
C'est notre dernier jour passé ensemble dans le monde d'Elodie sur France Info, avec un double vinyle et un double album intitulé Des Nefles et des Groseilles, saison 1 j'ai envie de dire, avec pas moins de 26 titres en CD, 12 en vinyle. Et cette date à l'Olympia à venir le 22 mars prochain, vous avez écrit une chanson que vous ne souhaitez pas chanter et enregistrée, c'est Les Anges de l'Ombre, pour le personnel hospitalier.
Oui, en fait c'est la chanson que j'ai écrite pour ma sortie d'hôpital quand j'ai eu mon AVC. Et je ne l'ai chantée qu'une fois sur scène, au Théâtre de Mons, où tout avait commencé pour moi. C'était juste pour remercier le corps médical, les infirmières, les docteurs, dont on ne parle pas suffisamment. Pour moi, ils ont joué le rôle de l'ange, oui, gardien.
Dans cet album, il y a votre progéniture. C'est vrai qu'on en parle.
La progéniture de ma progéniture.
Voilà, c'est ça. C'est votre petite fille. Ça représente quoi, ça, pour vous, de savoir que la relève est là, que vous avez justement dans votre progéniture une sorte de passage de relais?
Je le vis et je m'en suis rendu compte depuis quelques années déjà, puisque mon fils cadet Benjamin est membre d'un groupe d'électropop qui s'appelle Fujiya et Miyagi. Ma fille a fait un duo avec moi, une chanson qui s'appelle T'aimer quelque part. Et mon fils aîné, qui lui est pilote, est aussi bassiste dans un groupe. Donc, la fibre musicale a été bien transmise. Ouais.
Vous avez pris le soin justement, effectivement, de leur proposer aussi de devenir à leur tour chanteurs, chanteuses, auteurs, compositeurs, interprètes. Certains artistes disent à leurs enfants de ne pas suivre le même chemin. Ça n'a pas du tout été votre cas, vous, Salvatore. Vous avez toujours eu besoin et envie de partager ces émotions-là.
Mais c'est surtout aux enfants de décider. Je ne vois pas pourquoi et comment un père ou une mère artiste interdirait à ses enfants de suivre le même chemin. Non.
C'est très émouvant de vous entendre chanter aux côtés de votre petite fille. En 2001, vous vous êtes essayé au roman avec le souvenir du bonheur est encore du bonheur. C'est quoi le bonheur ?
Le bonheur, je ne pense pas que ça puisse être une béatitude. C'est une accumulation de petites joies qui étoilent une vie. C'est tellement subjectif en plus, le bonheur. Il y a une chanson qui s'appelle « La clé du bonheur ». Je dis où est-ce qu'on la trouve et je termine
sous
en disant
un pot de fleurs,
simplement.
Mais où se trouve le pot de fleurs ?
Dans ton cœur.
Vous vous affrontez vous-même, presque, dans votre dernier album, Des Nefles et des Groseilles, Salvatore. Dans ma belle jeunesse, vous avouez ne plus avoir d'élan de félin. Vous chantez « Attends-moi où vas-tu, ralentis ton pas, comment vivez-vous le temps qui passe ?» et le sablier qui s'écoule.
Bon, c'est une des chansons qui m'a été suggérée. Il y en a trois dont j'ai coécrit le texte. Et là, c'est un ami journaliste, poète, Sergio D'Amaro, qui m'a envoyé un texte dans lequel il invectivait la jeunesse. Sans doute que je n'aurais pas eu cette idée de m'adresser directement à elle. Après, il y a quelques images qui viennent de lui, d'autres que j'ai rajoutées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon âge, on peut encore avoir l'impression, si on est concerné par la vie, d'être jeune. Il y a ne fût-ce que 50 ans, à mon âge, on était des patriarches retirés qui n'avaient plus droit à la parole, Donc, encore une fois, c'est sans doute mon métier, qui n'en est pas un, qui me donne l'impression d'avoir encore cette jeunesse en moi.
On comprend que la musique, quoi qu'il arrive, fera toujours partie de votre vie, que c'est l'essence même de ce qui fait battre votre cœur et ce qui vous donne envie d'avancer.
Mais je pense que même si j'arrête, parce qu'il faudra bien un jour arrêter de chanter en public, je n'arrêterai pas d'écrire des chansons et de composer, je pense. Même si elles ne sortiront jamais, j'en ai quand même une bonne centaine en réserve, mais il m'en vient tous les jours des idées de musique. J'ai, sur mon iPhone, j'ai 15 000 maintenant départs de chansons.
Je voudrais qu'on termine sur la chanson « Aimer comme on respire ». C'est une chanson de votre dernier album.
Oui.
Est-ce que tout est dit dans cette chanson ?
J'ai essayé de dire le maximum quant à l'urgence de s'aimer. Et comme j'évoque aussi les choses difficiles, j'ai tenu à ce que ma petite fille, avec sa voix gracile et innocente et émouvante, participe. Et bon, que je dise, moi, aimer comme on respire et sourire à la vie, ok, mais quand elle le dit, c'est bouleversant. Et la chanson se termine sur sa voix. Elle est certainement plus convaincante que la mienne.
Merci beaucoup, Salvatore, d'avoir
Merci
pris le
vous,
temps
Elodie.
De passer cette semaine avec nous sur France Info dans le monde d'Elodie. Votre album Des Nèfles et des Groseilles est disponible. Je rappelle que vous êtes donc en concert dans toute la France avec une date à l'Olympia le 22 mars prochain, à la Gare du Midi à Biarritz le 21 avril, le 21 juin au Havre et le 7 octobre à Clermont-Ferrand. Merci et bonne fin de tournée alors.
Merci
au Québec
vous,
et également en Belgique.
Merci à vous.
Le monde d'Elodie à retrouver sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Avant le journal, dans un instant à 5h30, la météo avec Christine Peña. Et ce matin, on surveille les pluies dans le sud.
Mais oui, depuis hier, il pleut fortement jusqu'à ce soir. D'ailleurs, les cumuls seront importants, très importants, entre 100 et 180 mm de pluie. C'est entre 1 et 2 mois de pluie pour ces régions du sud. Nous avons toujours du vent en Méditerranée, le vent d'Otan également sur le midi toulousain souffle encore très fort. Et puis sur l'ouest, on a des pluies un peu plus éparses, toujours des nuages, le soleil, on va le chercher sur le nord-est avec toujours de la douceur aujourd'hui.
Christine Peña pour la météo, vous écoutez France Info, il est
5h31. France Info, Jean-Christophe Martin.
750 ressortissants français ont été rapatriés depuis le début de la guerre en Iran. 5000 autres en ont fait la demande. Des chiffres donnés par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais vu l'intensité des combats au 7e jour de la guerre des Américains et des Israéliens contre le régime iranien, les vols entre Paris et le Proche-Orient restent très limités. Hier soir, un vol affrété par Air France, qui devait rapatrier des Français de Dubaï, a même été obligé de faire demi-tour après s'être trouvé dans une zone de tir de missiles. L'avion volait à vide. Les précisions d'Yvan Planteil.
L'avion avait décollé de Paris et devait atterrir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est au moment de survoler l'Égypte que des missiles sont tirés dans la zone. Demi-tour express donc. Les passagers qui attendaient à l'aéroport reçoivent alors les premières alertes sur leur téléphone. Puis les membres de l'ambassade viennent les prévenir en personne. « Je n'ai pas pu retenir mes larmes », me confiait l'une d'entre elles qui a dû regagner le chemin de son hôtel. Elle y est bloquée depuis 4 jours avec ses enfants.
« Je me suis effondrée. Jusqu'à maintenant, je tiens. » Puisque j'ai des enfants. Mais à ce moment-là, je me suis effondrée, oui, parce qu'on voyait déjà le bout. On avait annoncé à nos familles qu'on était de retour. Et finalement, non. C'est compliqué, je pense, pour tous les parents de devoir expliquer ça aux enfants, de les rassurer tous les soirs, tous les jours.
Dans son cas, c'est l'ambassade qui l'a directement contacté pour la rapatrier, identifiée comme vulnérable parce que ses deux fils sont jeunes, 7 et 13 ans. C'est le ministère des Affaires étrangères qui établit ces listes de ressortissants vulnérables à ramener donc sur le sol français. Il s'agit principalement de personnes malades ou fragiles ou bien d'enfants.
Yvan Planteil. Et ce matin, le Hezbollah libanais vient de revendiquer de nouveaux tirs de roquettes et d'artillerie vers Israël. À Tel Aviv, des séries d'explosions ont été entendues hier soir. Et en Iran, les frappes continuaient encore, notamment sur Téhéran. Emmanuel Macron veut empêcher que le Liban bascule dans la guerre. Le Liban, où Israël mène déjà des frappes contre les islamistes du Hezbollah pro-iranien, le chef de l'État répond à un appel de son homologue libanais, Joseph Aoun, et promet une aide humanitaire et militaire, notamment des transports de troupes blindés. C'est le jour J pour les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina avec la cérémonie d'ouverture ce soir à 20h dans les arènes antiques de Vérone. Et le football, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Lens-Toulouse et Strasbourg-Nice, ce sera le 22 avril. Hier soir, Lens s'est qualifié au tir au but face à Lyon. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Merci d'écouter France Info. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Après un ordre d'évacuation israélien qui a provoqué la panique des habitants et un exode massif, Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth hier. Cette banlieue sud qui est le fief des islamistes du Hezbollah, allié de Téhéran. L'envoyé spécial de France Info dans la capitale libanaise, Étienne Monin, a pu entrer avec Martin Troadec pour les moyens techniques dans un des secteurs pilonnés par l'aviation israélienne à Beyrouth, dans le secteur de Daye, tenu par le Hezbollah.
C'était ma maison. Here. Là.
Normalement, quand on est journaliste, on n'entre pas dans ce quartier, mais Myriam, qui est assise à l'arrière de la voiture, nous sert de guide. Elle est chiite, elle est maintenant réfugiée chez son oncle.
C'est très triste, parce qu'on avait une vie normale. Et soudain, tout a changé.
On ne voit pas grand monde dans les rues, on s'enfonce dans le quartier, finalement, sans trop se rendre compte au début qu'on est dans l'épicentre des frappes israéliennes.
C'est l'immeuble qui a été bombardé hier, juste là. Vous pouvez voir.
À gauche, près des portraits géants des leaders assassinés au Liban, en Iran, on voit des ruines qui fument encore. À droite, pas très loin, on voit un immeuble aplati en millefeuilles.
Celui-là a été bombardé pendant la dernière guerre et aussi hier. Donc cet immeuble a été bombardé deux fois.
Myriam a quitté son quartier lundi à 2h30 du matin, au moment des premières frappes, les mains vides, surprise par ce qui lui tombait dessus.
Pendant la dernière guerre, on avait un sac dans lequel on avait mis des vêtements ou les choses importantes. Mais là, on n'était pas préparé pour ça. On ne s'attendait pas à une nouvelle guerre.
Myriam a 19 ans, elle a déjà vécu deux guerres. Aujourd'hui, elle reproche au Hezbollah de s'être lancé dans ce combat en abandonnant sa communauté.
Étienne Monin, l'envoyé spécial de France Info à Beyrouth avec Martin Troadec pour les moyens techniques. À Téhéran maintenant, l'ONU estime que 100 000 personnes ont fui la ville pendant les deux premiers jours de la guerre le week-end dernier. Le pays est toujours sous le coup d'une coupure quasi totale d'Internet. Malgré ces conditions et malgré la peur des Iraniens, France Info continue d'essayer de vous faire entendre leurs témoignages. Caroline Félix a pu joindre Ava, une jeune femme de 24 ans qui habite à Téhéran.
Depuis samedi, son université est fermée, alors cette étudiante en informatique reste chez ses parents. À chaque explosion, nous craignons que notre maison ne soit la prochaine, dit Ava. Elle a peur, mais tente de ne pas le montrer à son petit frère de 7 ans et de lui expliquer ce qu'elle peut de la situation. Nous avons brouillé la voix d'Ava pour sa sécurité.
Il est trop jeune pour comprendre la différence entre bruit de roquettes, de drones ou autres missiles qui le réveillent la nuit. Alors on lui explique, on le fait pour qu'il comprenne pourquoi son école est fermé, pourquoi il ne peut pas jouer dehors. On lui dit de ne pas avoir peur, mais d'être prudent.
Mais elle veut rester à Téhéran, c'est chez nous, dit-elle. Il faut se serrer les coudes entre habitants. Ava lit, code des programmes hors ligne sur son ordinateur, sort très peu. Alors certains de ses amis sont bien allés dans des cafés depuis samedi, mais la plupart ne font que les courses essentielles. À cause des difficultés d'acheminement, certains aliments sont devenus plus chers à Téhéran, mais il ne manque de rien. Pour l'instant, dit l'étudiante. Le soir, elle évoque des manifestations pro-régime très fréquentées.
C'est très étrange de voir ce qu'il se passe dans nos rues. Des personnes célébraient la mort d'Ali Khamenei samedi soir. Et depuis, d'autres personnes défilent tous les soirs en blanc en soutien au gouvernement.
Ava s'oppose au gouvernement des Mollahs. Elle avait participé au mouvement Femme, Vie, Liberté il y a 3 ans. Mais contrairement à d'autres habitants que nous avons joints, l'étudiante rejette radicalement cette guerre. « Je hais tous ceux qui sont impliqués, même de loin », dit-elle.
Nous, les Iraniens, on se souvient des guerres passées et vous entendez les personnes en dehors de l'Iran dire qu'elles n'ont pas envie de la guerre. Mais ici, personne ne la veut, en tout cas pas moi. C'est la deuxième fois qu'on est attaqué en moins d'un an.
Si quelqu'un veut renverser ce régime, il ne le fera pas en tuant ses dirigeants, estime la jeune femme qui ajoute « Je souhaite que mon peuple décide lui-même de l'avenir de son pays ».
Le témoignage d'Ava, une Iranienne de 24 ans qui habite Téhéran. Témoignage recueilli pour France Info par Caroline Félix. Il est 5h38 alors que la guerre contre l'Iran embrase le Moyen-Orient. Les Kurdes iraniens, dont beaucoup vivent en exil en Irak, y voient une occasion de parvenir à l'autodétermination. Ils espèrent profiter d'un affaiblissement du pouvoir iranien. L'analyse d'Asni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
L'usage des Kurdes comme une carte politique de la part de Donald Trump et de Benny Netanyahu, c'est une première. D'abord parce que c'est une carte très mâle et elle va encourager finalement les divisions confessionnelles et ethniques. Elle ne va pas plaire aux autres composantes de la population iranienne. Je dirais même qu'elle va plutôt renforcer le lien nationaliste très fort. Les Iraniens sont prêts, bien sûr, pour se débarrasser du régime iranien, mais pas de sacrifier leur unité. Le deuxième élément, la grande difficulté...
Pourquoi vous dites que les Iraniens ne sont pas prêts à sacrifier leur unité ?
Oui, parce que Donald Trump il joue une carte de division. Il fait appel à une minorité ethnique, alors que les Iraniens tout de même sont composés sur cette idée d'un État multination, multi-ethnie. Et ça veut dire que si on donne aux Kurdes une place importante, vous avez aussi les Bolouches au sud de l'Iran, et ça ouvre finalement la boîte de Pandore en Iran. C'est un pas vers la division du pays.
Mais est-ce que tout de même, il ne pourrait pas être l'étincelle qui mènerait un soulèvement plus large contre le régime ?
C'est exactement le calcul de l'administration américaine, c'est-à-dire jouer la carte kurde parce qu'ils sont militaires et qu'ils peuvent constituer une force militaire en mesure même d'occuper un territoire important qui va constituer un point d'appui protégé sur le plan militaire, mais aussi armé par les Américains et les Israéliens et marcher peut-être vers la capitale. Et on le sait, ça c'est un élément qui est central, c'est-à-dire les Kurdes vont être le fer de lance pour les Américains pour avancer vers des positions à l'intérieur de l'Iran.
En tout cas, pour l'instant, il y a des contacts, mais de ce que l'on sait, ça ne va pas plus loin.
Les deux chefs finalement des Kurdes qui sont en Irak, Talabani et Barzani, qui dirigent deux partis politiques, sont sceptiques, ils sont opposés. D'abord, ils gardent des bonnes relations avec l'administration américaine, mais ils ont aussi des comptes à rendre à leur population et aussi au gouvernement central de Bagdad. Donc, il n'y a aucune partie qui veut, en quelque sorte, brusquer aussi l'administration centrale. L'Irak est un État fédéral. Sans oublier, bien sûr, ce sentiment d'abandon subi par les Kurdes de la Syrie. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, l'administration Trump a abandonné les forces démocratiques syriennes aux nouvelles autorités syriennes de Ahmed al-Sharaa.
Donc, ça veut dire que les choses ne sont pas si simples, mais est-ce que vous entrevoyez tout de même la possibilité, vu les circonstances exceptionnelles, justement, d'une alliance de circonstances entre l'opposition iranienne et ces Kurdes dans l'objectif de tourner la page du régime iranien?
Oui, c'est très difficile d'imaginer cette alliance parce qu'elle nous renvoie à l'alliance du Nord, souvenez-vous, en Afghanistan contre le régime de Taliban et qui a été aussi sacrifié par les Américains. Les Kurdes ont des contraintes locales et chaque communauté finalement obéit à un contexte propre à son environnement. Cependant, ce qui est important, c'est que les Kurdes réfléchissent et je crois qu'ils sont dans une situation difficile parce qu'ils se disent, c'est une opportunité, Donald Trump les appelle, donc est-ce qu'ils doivent profiter de cette opportunité pour marquer leur territoire et avoir plus de concessions tant que le régime est affaibli, très affaibli, ou bien refuser cette offre et continuer dans l'état actuel des choses.
Quels sont les rapports entre, d'une part, les Kurdes et l'une des figures les plus vocales de l'opposition ces derniers jours, à savoir le fils du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi?
Ce n'est pas dans l'intérêt de Reza Pahlavi de jouer cette carte-là. Et je pense qu'il va la rejeter. Donc, il est probable qu'il la rejette parce que lui, son ADN, c'est plutôt cette unité et ce nationalisme perse très, très fort. Les Iraniens sont très fiers de leur unité, mais jouer sur la carte de division et sur la carte kurde, qui est seulement une partie de la population iranienne, elle est audacieuse comme entreprise, mais elle est chargée de risques, elle est porteuse de grandes incertitudes sur la cohésion nationale iranienne. Quel est l'intérêt finalement de déstabiliser un régime et ensuite se retrouver divisé en plusieurs ethnies et plusieurs confessions?
Cela dit, l'un des groupes kurdes, hein, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, il assure que son mouvement, il veut un Iran fédéral et non pas une partition de l'Iran.
Absolument. Ça a été d'ailleurs l'opposition de part et de l'Union kurde et le Parti démocratique. Les deux fractions qui sont aussi en Irak ont toujours plaidé en faveur donc, de larges pouvoirs au sein d'un État fédéral, mais pas d'une indépendance. En revanche, jouer la carte kurde comme le veut Donald Trump, surtout si les informations concernant des opérations de distribution d'armes venant de l'étranger, elle est porteuse de risques même pour les Kurdes qui sont en Irak, qui vont être finalement traités comme des traîtres à la nation, et ce n'est pas l'objectif ni des autorités irakiennes, ni bien sûr de ce qui reste du pouvoir en Iran.
Le politologue Ghassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, il répondait sur France Info à Marc Potvin. Dans un instant, le choix de France Info ce matin avec des Iraniens de France pour voir comment ils imaginent aujourd'hui l'avenir de leur pays. D'abord l'info en une minute. L'essentiel de l'actualité à 6h moins le quart, c'est avec Laura Dulieu. Laura, le premier titre, un avion Air France forcé de faire demi-tour à cause d'une alerte au missile.
L'appareil volait à vide depuis l'Égypte pour rapatrier des Français bloqués aux Émirats Arabes Unis. Au total, selon le Quai d'Orsay, 750 Français ont déjà été évacués du Moyen-Orient. Environ 5000 ont exprimé le souhait de rentrer. Pas d'accalmie donc en vue dans la région, notamment au Liban, où Israël bombarde massivement le sud du pays et le sud de Beyrouth. Des centaines de milliers de personnes sont forcés de quitter leur domicile. 123 ont été tués par ces frappes, d'après les autorités libanaises. Emmanuel Macron annonce l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les réfugiés fuyant le sud du pays et appelle Israël à renoncer à toute intervention terrestre ou d'envergure au Liban. Hier, un ministre israélien promettait à la banlieue sud le même sort que Khan Younes, ville totalement rasée à Gaza par les bombardements israéliens. Un vice-président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire démissionne à cause de soupçons d'agression sexuelle sur une salariée. Information de Issy Touraine. Les faits ont eu lieu lors du Salon de l'agriculture à Paris. Enfin, pas d'alliance de Rachida Dati avec Sarah Knafo dans la course à la mairie de Paris. C'est en tout cas ce qu'assure la candidate LR qui appelle la droite au rassemblement, mais sans donc le parti d'extrême droite Reconquête.
France Info.
Déjà 7 jours de guerre, 7 jours depuis les premières frappes américaines et israéliennes en Iran, puis la riposte du régime iranien. C'est le choix de France Info ce matin à 6h moins le quart. Personne ne sait comment tout ça va finir, mais de Paris à Créteil, France Info a cherché à comprendre comment certains Iraniens de France vivaient cette guerre à distance. Le reportage de Benjamin Ely.
Bonjour monsieur, je cherche l'épicerie iranienne.
Vous êtes pas loin.
Ah, bah dites-moi où elle est, parce que je suis un peu perdu là. On est au pied des immeubles à Créteil, dans le Val-de-Marne.
Non, vous êtes chaud.
Ah oui, planqué sous la dalle.
Eh, il a du mal à te trouver, pourquoi tu te caches comme ça?
C'est vous l'épicier?
Voilà l'Iranien.
Comment il s'appelle?
Ali.
J'arrive tout de suite, monsieur Ali. C'est la musique du pays?
Gougouche.
Gougouche, c'est la chanteuse. Une chanteuse iranienne des années 70, je vois sur l'écran. Vous avez quel âge, monsieur?
65 ans.
Et ça fait combien d'années que vous êtes en France?
30 ans.
On peut essayer d'appeler votre famille là-bas?
Non, j'arrive pas. Internet, il est coupé.
Ça sonne dans le vide.
Quand je regarde les informations, vraiment, j'ai mal au cœur. Toujours, on a pensé pour toute la famille. Parce que la guerre, c'est pas bien.
Et vous voulez pas prendre position sur le régime actuel?
Non, je connais pas politique, je connais pas rien du tout. On habite ici. On ne peut pas décider là-bas.
De ce qui se passe là-bas.
Voilà. J'espère que tout de suite arrêté. Parce que les enfants, les femmes, les hommes sont victimes pour rien. Tous les deux côtés. Pour quelle raison faire la guerre ? marche pas.
Alors c'est pas le même quartier, on est toujours à Créteil. On est attendu par un couple franco-iranien. Désolé d'arriver à l'improviste comme ça.
C'est pas grave, c'est pas grave. On est dans le
quoi?
Le noir. Oui.
Vous avez deviné, on est au bord de la dépression.
Tout le temps envie de pleurer. Manigé, 78 ans.
Tagui est 80 ans.
Et vous vivez en France depuis combien d'années?
43 ans.
Vous étiez opposé au régime du Shah, au régime islamique?
Toujours contre les deux régimes.
Vous arrivez à avoir des nouvelles de vos proches là-bas?
La dernière fois, c'était juste le premier jour de la guerre. On a entendu même la déflagration.
Le bruit de la guerre.
Bruit de la guerre, voilà comme vous dites.
7 heures par jour sur le téléphone.
7 heures par jour.
7 heures par jour.
Vous relancez les appels encore
non,
et encore.
Pas seulement. On sait qu'il n'y a pas de réseau.
Mais il y a beaucoup de vidéos qui arrivent.
Telegram.
Vous avez, oui, des groupes Telegram.
Évidemment, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faits.
Vous montrer quelques-unes.
Bien sûr, oui. Les derniers. Il vient d'être bombardé. J'ai pas l'origine de vidéo. C'est une guerre d'agression de la part des États-Unis et d'Israël. Mais bon, la vérité, c'est quand on a entendu que le guide a été disparu, la majorité des Iraniens étaient contents.
Oui et non. Khamenei, c'était un assassin. Mais on n'était pas contents parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir, ça nous amène.
Vous avez envie de quoi comme avenir?
La démocratie.
Ça veut dire vive le roi.
Alternative pour l'Iran.
Char, les hommes.
Voilà, le petit rassemblement se prépare sur l'esplanade des Invalides à Paris. Ils sont environ une trentaine, des franco-iraniens. Ils soutiennent le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi.
Char, les hommes.
Pour le moment, on veut le renversement du régime. Première étape. Bien sûr, nous avons un guide, Prince Reza Pahlavi.
Qui vit aux États-Unis depuis longtemps.
Pour nous guider jusqu'au jour d'élection. Et après, c'est à nous, le peuple d'Iran, de décider quel régime on veut.
Démocratie pour l'Iran.
Shah Reza Pahlavi.
Pour moi, le fils de Shah, il est un roi aujourd'hui, dans les médias.
Mais pas dans votre pays.
Non.
On est au centre culturel Pouya.
Oui, exactement.
Dans le 10e arrondissement de Paris.
C'est un centre culturel franco-iranien qui existe depuis 36 ans.
Je vous laisse vous présenter.
Ma Posparteri, le directeur du centre.
Comment on vit ce qui se passe là-bas, vu d'ici?
On est dans un cauchemar. C'est une question toutes les minutes pour moi. Est-ce qu'il existe un pays sur la Terre qui est venu de liberté, égalité, démocratie avec guerre? Guerre, ça veut dire perdre.
Vous auriez préféré une révolution?
Bien sûr, du peuple.
Du peuple.
Du peuple. Depuis 44 ans, je suis en France.
Vous voulez y retourner en Iran?
Bien sûr. J'ai besoin de la tombe de ma mère. J'ai besoin de la tombe de mon père.
Vous allez vous recueillir?
Oui.
Sur la tombe de vos parents?
Oui. J'ai besoin de même l'odeur de chemise de ma mère. Qui reste dans la valise, dans mon pays.
Merci.
Je vous en prie. Vous voulez boire quelque chose? Un thé ou un café?
Prends un thé, merci.
Le choix de France Info, signé ce matin Benjamin Illy avec ses Iraniens de France, à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 5h52, l'heure du réveil de l'écho avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Toute l'actualité économique en trois titres. Les Français, Emmanuel, se détournent des crédits immobiliers et consommation.
Oui, crise internationale et incertitude sur l'évolution du pouvoir d'achat, tout cela sur fond d'inflation. Les Français n'ont pas suffisamment confiance en l'avenir pour décider de s'endetter. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée par l'Association des sociétés financières et la Fédération bancaire française. Les intentions de souscrire de nouveaux crédits pour le premier semestre de cette année sont au plus bas. Dans le détail, seuls 2,6% des ménages ont l'intention de souscrire un crédit immobilier, 3% un crédit consommation.
Les Français achètent également moins de montres et de bijoux précieux dans l'Hexagone.
Oui, peut-être pour les mêmes raisons, d'ailleurs liées au pouvoir d'achat. La filière française de l'horlogerie et de la bijouterie joaillerie fait état d'une baisse du volume de vente, même si le chiffre d'affaires, lui, a grimpé sur fond de hausse des cours des métaux. Chiffre d'affaires global de 5,9 milliards d'euros. Le cours du lingot d'or a en effet bondi sur l'ensemble de l'année dernière de 38% en euros, celui de l'once d'argent de 35% et celui de l'once de platine de 27%.
Certains États américains attaquent les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump.
Oui, alors ça n'est pas une rébellion, mais ça lui ressemble. Une vingtaine d'États, parmi lesquels celui de New York, la Californie ou la Pennsylvanie, annoncent qu'ils vont en effet déposer un recours contre les nouvelles surtaxes de 10% mises en place pour remplacer celles retoquées la semaine dernière par la Cour suprême à Washington. Les États en question reprochent au président américain de se baser sur une loi de 1960. Sans pour autant en respecter les conditions prévues par le texte, ce qui en rend bien sûr la mise en place illégale à leurs yeux.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Face à la guerre au Moyen-Orient, les grandes bourses mondiales ne surréagissent pas. Pas de krach financier à proprement parler pour l'instant. Les marchés sont plutôt volatiles, mais pas plus car les opérateurs attendent de voir. Et oui, c'est plus la durée du conflit que son intensité qui inquiète à l'heure où nous parlons.
Le Brief Éco, on vous retrouve dans une demi-heure à 6h23. Emmanuel Cugny, tout de suite, il est 6h05 et c'est l'heure de la playlist de France Info avec Laura Dulieu. Laura, le retour d'un ancien des Beatles.
Mais Ringo Starr annonce un nouvel album avec un premier extrait dévoilé, It's Been Too Long.
Well, it's been too long since we've seen each other.
Ringo Starr, vous l'entendez, qui surfe lui aussi sur la vague du country, ça ne vous aura pas échappé, même si on entend encore une lointaine influence du rock'n'roll quand même. Les voix féminines qu'on entend plus loin dans le morceau, ce sont celles de Molly Tuttle et de Sarah Jarosz en accompagnement. L'album s'appellera Long Long Road, il a été enregistré à Nashville au Texas et ça s'entend.
Nashville, le repère de la country américaine. Et l'ancien batteur des Beatles s'est aussi entouré de collaborateurs du genre prestigieux.
Mais je vous en cite quelques-uns. Sheryl Crow, le célèbre guitariste Billy String ou encore la chanteuse guitariste virtuose Syn Vincent. Plusieurs d'entre eux avaient déjà collaboré sur le précédent album de Ringo Starr, Look Up, sorti il y a un peu plus d'un an. It's a long way down and there's no bottom. You had the blues but you forgot and look up in the midnight hour. Look up, love is the higher power. Keep your eyes. Look Up qui avait marqué un vrai retour et un succès de Ringo Starr qui n'avait à l'époque rien sorti depuis 2019. Le disque s'était classé 7e dans le classement des meilleures ventes d'albums au Billboard en janvier 2025. Et cet album qui s'apprête à sortir, Long Long Road, s'inscrit donc dans la continuité du précédent. Ringo Starr confirme clairement son virage country. D'ailleurs, les deux ont été produits par T-Bone Burnett qui a produit entre autres Elton John ou accompagné Bob Dylan sur scène, rien que ça. À 85 ans, Ringo Starr sortira donc le 24 avril son 22e album, 10 titres, avec même une tournée. Pas chez nous, ce sera une tournée aux États-Unis entre le mois de mai et le mois de juin. Together, together.
Laura Dulieu pour la playlist de France Info. Tout de suite, la météo et le journal.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Et avant le prochain journal à 6h, la météo sur France Info avec Christine Peña. Christine, il y a du mauvais temps qui s'annonce, mais la douceur reste encore très marquée.
Et oui, et malgré d'ailleurs les nuages, effectivement, vous avez raison, la douceur sera encore très, très marquée avec des températures dignes d'un mois de mai, parfois entre 15 et 20 degrés. Il fera 19 à Paris comme à Reims, 20 degrés du côté de Lyon. Ça sera la même température qu'à Ajaccio. Alors le temps, effectivement, est de plus en plus nuageux, avec de fortes pluies soutenues depuis hier d'ailleurs sur le Roussillon jusqu'aux Pyrénées orientales. C'est là où il pleuvra en continu et il pleuvra le plus avec de forts cumuls. Plus d'un mois de pluie attendue d'ici ce soir. Et puis nous avons un temps un peu plus mitigé sur l'ouest, très couvert avec des pluies intermittentes sur la région PACA également. Et plus on va vers le nord-est, au nord de la Seine, alors Champagne, Lorraine, Alsace surtout, et plus le soleil reste présent. Et pour ce week-end, on gardera à peu près la même configuration avec peut-être un peu plus d'éclaircies, une tendance orageuse qui se développera à l'ouest et dans le sud et toujours cette douceur.
Christine Peña, il est presque 6h et pour la suite de l'info, c'est Thomas Séchier qui nous accompagne sur France Info. Bonjour Thomas.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi matin avec toute l'équipe de la matinale. Christine Peña, bien sûr, à mes côtés pour la météo. Sarah Ders, bonjour Sarah.
Bonjour.
Pour le journal de 6h, Laura Dulieu qui nous rappellera également les grands titres de l'actualité. Actu dominée évidemment toujours par la guerre au Moyen-Orient. 7e jour de guerre et l'armée israélienne qui assure être entrée dans une nouvelle phase. Le général Jean-Paul Paloméros sera notre invité tout à l'heure à 7h10 et à 8h30. C'est la ministre.